le savons, le plus jeune État européen est âgé de 9 ans seulement et le processus de la création politique du Kosovo n'a pas été simple. Sur une planète où les territoires vierges n'existent plus, un nouvel État ne peut apparaître que dans deux cas, nous dit l'encyclopédie sur Internet. Par la séparation d'un territoire colonial de l'État métropolitain, c'est ce qu'on appelle la décolonisation, et par l'éclatement d'un État préexistant. Mais le droit international permet à tout moment la création d'un nouvel État. Auditrice, auditeur d'FM+, c'est ce qui vient de se passer ce 5 octobre 2017. Un nouvel État s'est constitué. Il a un nom, la Fédération des deux rives, une devise, la paix pour seul combat, un chef d'État, l'astrophysicien Pierre Granès, un drapeau, une assemblée nationale présidée par Christian Chambré et un gouvernement dirigé par Jacques Villard. Jacques Villard qui est avec nous. Bonjour Monsieur Jacques Villard.
Bonjour Guylaine, si vous me permettez.
Bien sûr, on se connaît, mais ici on va faire notre travail. Alors, créer un État, c'est donc ce que vous avez fait, Jacques Villard, entouré bien sûr, mais vous en êtes quand même un initiateur très actif. Alors, vous avez fondé ce nouvel État, un État pied noir. Pourquoi cette démarche?
Je vais vous l'expliquer, mais tout d'abord, pour vous dire dans quel état d'esprit nous sommes, je tiens toujours à faire quelque chose que les gens ne savent plus faire, c'est-à-dire commencer par dire merci. Et donc je vous dis merci de nous recevoir, merci de nous recevoir dans une ambiance qui est toujours délicieuse, agréable, et d'avoir des collaborateurs qui sont à l'écoute de ce qui se passe. Parce que bien souvent c'est dans l'indifférence générale, là ça n'est pas le cas. On vient par plaisir, on vient discuter de choses sérieuses, mais par plaisir. Et dans ce monde qui est un peu fou, c'est quand même très agréable. Donc pour en venir à l'État, je veux dire que depuis que nous avons créé cet État, nous avons mis nos observateurs dans tous leurs États. C'est quand même incroyable, mais personne n'y croyait. Non seulement maintenant tout le monde y croit, mais tout le monde commence à débattre sur cet État. Est-il possible de faire cela à notre époque? N'est-il pas possible? Y a-t-il des textes, etc. Vous avez fort justement précisé qu'il y avait des socles fondamentaux qui précisaient comment un État émergeait. En fait, il y a une faille. Il y a un socle, il y a une faille. Il y a une faille en ce sens que c'est la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933. Des pays d'Amérique latine se sont posé la question de savoir, tout simplement, comment il était possible à notre époque de pouvoir vivre en étant un peuple et avoir son destin en main. Et ils ont créé un texte. Ce texte maintenant fait référence, non seulement il fait référence, mais il est entré dans l'Organisation des Nations Unies, dans les textes de l'organisation, dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, et il prévoit tout simplement que tout peuple qui a une destinée, qui a une histoire, qui a la volonté de vivre ensemble, au titre de la conférence d'Ernest Renan à la Sorbonne, qui disait « une nation ne peut que se créer que s'il y a un désir de vivre ensemble », eh bien nous avons un désir de vivre ensemble, nous sommes un peuple, nous avons une histoire, un passé douloureux, mais comme tous les peuples ont un passé douloureux quand on émerge quelque part, même lorsque l'on naît. C'est une douleur déjà. Donc voilà, nous sommes dans la phase de naissance. Nous sommes en train de grandir très rapidement. Peut-être un peu trop rapidement, à mon goût.
Mais oui, ça s'est fait maîtrisons. En combien de temps, toute cette évolution, toute cette gestation?
Alors, je dirais... très bien, merci, vous m'ouvrez la voie, parce que cette gestation, effectivement, c'est 9 mois.
Et voilà.
Donc, c'est très bien trouvé. C'est cela. En 9 mois, nous avons créé un État au 21e siècle. C'est-à-dire que nul ne peut contester notre existence, mais qui plus est, la Convention de Montevideo de 1933 dit bien aux États, vous avez le devoir et la nécessité d'aider ce peuple, cet État, cet enfant des nations, à se développer, à prospérer, et c'est un devoir pour vous. Vous ne devez pas l'empêcher. Donc à l'heure actuelle, qu'avons-nous à redouter? Rien. Nous sommes dans une famille qui est la famille des nations. Nous reconnaissons toutes les organisations au monde qui existent en leur disant ben, « Merci, bravo, hein, vous êtes notre famille, nous sommes des enfants de cette planète, et donc nous allons prospérer dans la paix, et si possible, puisque nous avons quand même quelques, je dirais, qualités, quelques facultés, nous allons essayer de faire que on développe deux choses dans ce monde qui manque un peu, la paix et l'amour. »
Alors, en effet, vous annoncez que cet État pied-noir est un médiateur et un acteur de la paix entre les deux rives de la Méditerranée, entre le continent africain et l'Europe. Alors, de quelle façon est-ce que, concrètement, vous... Qu'est-ce que vous mettez sur ces deux mots très, très beaux, mais en même temps très larges, médiateur et acteur de la paix ?
Alors, médiateur et acteur de la paix. D'abord, il faut savoir que à l'heure actuelle, on entend beaucoup les gens qui parlent de guerre, que ce soit ceux qui la mènent ou ceux qui la contrarient, mais on oublie de parler de paix. Qui sont les gens qui ont commencé à nous parler de paix au niveau du monde ? Martin Luther King, le Mahatma Gandhi. Nous sommes sur cette voie-là. C'est-à-dire que nous avons un État où il n'y a pas de ministère de la guerre ou de ministère de la défense nationale. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à créer ce genre d'institution, ça veut dire que vous êtes prêt à faire, quoi. Hein. Donc nous ne sommes pas prêts à faire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les autres, de discuter avec eux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'interlocuteur privilégié. Quand on dit nous sommes médiateurs, nous sommes tout à fait d'accord pour aller dans tous les lieux où se diffusent les religions, les philosophies, tout ce qui fait que les hommes s'assagissent un peu. Mais nous sommes aussi prêts à aller sur les champs de guerre et aller voir ce qui s'y passe et à discuter avec ceux qui y sont. C'est-à-dire que nous n'avons pas, par exemple, de difficultés à rencontrer les gens de l'Organisation des Nations Unies qui sont sur le terrain, ou même voir les combattants. Si nous arrivons à convaincre un dirigeant de Daesh, imaginons, soyons fous, si nous arrivons à convaincre un combattant sur le terrain qu'il faut abandonner le combat et que de toute façon la paix existera après la guerre, il serait bien que l'on commence par la paix et que l'on arrête la guerre, eh bien nous aurons gagné. Ce que nous voulons, nous sommes en Méditerranée. Moi je suis un Africain. Je suis né dans un petit quartier d'une ville africaine. Donc d'une ville méditerranéenne. Je ne tiens pas du tout à ce que le berceau de l'humanité devienne un champ de guerre. Ce que je souhaite, c'est que mon berceau soit le plus joli possible, que j'ai des parents qui soient heureux, et qu'ils s'embrassent, et qu'ils fassent la fête ensemble, qu'ils jouent ensemble, qu'ils prospèrent ensemble. Nous avons une planète qui est merveilleuse. On veut en faire une poubelle et un cimetière. On est malade. Nous avons de quoi faire en Méditerranée un havre de paix. Un oasis de discussion, de concertation, de chant, de culture. Allons-y, faisons cela, plutôt que de faire un champ de ruines.
Alors, création de cet État au mois d'octobre, et d'ores et déjà, le 13 novembre, une délégation de votre État se rend à l'Élysée, à l'Assemblée nationale. C'est déjà une grande date de rencontrer ces représentants de l'État français.
Ben écoutez, on prend ce que nous avons sous la main. Je ne veux pas être très désobligeant, mais le problème est qu'effectivement, nous avons créé cet État. Donc, c'est vrai que nous marchons à cadence rapide. Depuis ce matin, les agences de presse viennent de recevoir donc la composition de notre Conseil des ministres. Il y a une vingtaine de ministres. Ça n'est qu'une première liste. Il y en aura d'autres. Mais quand je lisais il y a quelques jours que personne ne croyait vraiment à ce que nous étions frères, que c'était peut-être un 1er avril, enfin 1er avril au moment d'Halloween, c'est y a un problème dans la chronologie des festivités. Mais donc à ce niveau-là, nous sommes en train de prouver, quand on regarde les noms des ministres et quand on regarde leurs charges, que nous avons des chefs d'entreprise, des avocats, des constitutionnalistes. Nous avons des avocats constitutionnalistes, etc. Donc nous avons tout le panel d'une société normale, avec des gens très instruits et des gens qui ne le sont pas, mais qui sont par contre des manuels, et que ceux-là, ce sont ceux qui assurent la pérennité de la cité. Donc nous avons une représentation globale de ce que peut être un État ou une ville. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun désespoir à avoir. Nous sommes un État, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus, qu'on le veuille ou non, si ce n'est que de nous réduire. Mais comment réduire à notre époque toute une population ? Nous sommes 5 millions d'individus. Ça va prendre du temps. Ça va être long. Non, il vaut mieux venir avec nous et travailler avec nous.
Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous du 13 novembre ?
Alors, ce rendez-vous du 13 novembre, c'est une étape parmi d'autres. Elle est intéressante parce que c'est celle de la présidence de la République française, c'est celle de l'Assemblée nationale, c'est celle du Sénat, ce sont des institutions que nous respectons. La plupart du temps, les gens nous disent « Mais vous faites ça parce que vous êtes anti-français ?» Mais pas du tout. Nous adorons la France. C'est un très beau pays. Et nous venons, en ce qui nous concerne, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Trois pays magnifiques de l'Afrique du Nord que nous aimons. Notre vecteur, ça n'est pas la haine. Notre vecteur, c'est l'amour. Donc nous venons voir, nous sommes en France là, à l'heure actuelle. Nous allons donc commencer à travailler sur l'érection de notre État. Nous venons de signer un compromis sur 285 hectares. Bien, nous allons voir le président de la République en lui disant « Bonjour Monsieur le Président, nous sommes sur le territoire français pour l'instant. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, s'il veut bien nous rencontrer. » Et nous allons faire la même chose avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat en leur disant « Quelle bonne chose nous pensons faire pour la France. » Imaginez-vous, nous avons 285 hectares. Notre challenge est de dire, sur ces 285 hectares, c'est un hectare, un emploi. Quel est le président à l'heure actuelle du conseil départemental qui va dire « Je mets à la poubelle 285 emplois ». Non, on est tout à fait prêt. Nous sommes donc dans l'Hérault. L'État que nous allons instituer, ou tout au moins la représentation que nous allons instituer, c'est dans l'Hérault. Monsieur Clémer Mesquida, qui est le président du conseil départemental, est un homme charmant, qui a les mêmes origines que moi. D'ailleurs, c'est un pied noir, donc il va très bien comprendre ce que je lui dis.
Il ne faut pas être pied noir pour comprendre ce que vous dites, toutefois.
Pour parler pied noir, on peut parler pied noir, oui, entre nous, oui.
Mais bon, et les autres.
C'est assez folklorique, c'est assez amusant, c'est très coloré. Mais nous avons, au niveau de notre constitution, puisque nous avons créé notre constitution, c'est fini, on ne peut plus y revenir. Dans cette constitution, il y a quatre langues, en fait. Il y a le français, qui est notre langue nourricière, maternelle, et trois langues subsidiaires, l'espagnol, l'italien et l'hébreu. Nous sommes le deuxième pays au monde qui va parler hébreu. Et qui parle déjà hébreu.
40%. Dans vos textes officiels, vous allez les traduire en hébreu ?
Bien sûr, oui. Il y aura les quatre langues. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes des francophones, nous sommes des gens qui respectons les communautés qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous avons 40% de nos frères à l'intérieur de nous-mêmes qui sont juifs, qui parlent hébreu. Nous avons 20% de nos frères qui parlent espagnol. Et dans la tourmente actuelle qui se passe en Espagne, ça vaut le coup quand même de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc, ils parlent espagnol, ils parlent catalan. Et puis, nous avons des Italiens. Donc, si vous voulez, on s'entend très bien. À la limite même, on n'a même pas besoin de prononcer quelques paroles. Nous avons les yeux, nous avons la gestuelle, nous savons parler au cœur, quoi, d'abord.
Je voudrais revenir sur cette question du territoire. Est-ce qu'il est d'ores et déjà acquis, ce territoire, pour cet État pied-noir ?
Alors, si vous voulez, il est acquis en ce sens que nous avons la possibilité, évidemment, nous avons signé un compromis. Donc, maintenant, le problème, c'est l'appréhension, ou la préhension. Parce que si l'appréhension débouche sur la préemption, c'est-à-dire que brusquement le président du conseil départemental se dise quand même, je vais avoir le camp de petits bonhommes avec Astérix et Obélix dans le coin, ça m'arrange pas vraiment. Il va préempter, ou la commune va préempter, ou que sais-je, la SAFER va préempter. Et à ce moment-là, peut-être essayer de faire en sorte que nous ne puissions pas nous installer. Je dirais que si la France refuse d'offrir une pièce dans la maison à ses fils, nous avons immédiatement pris en charge ce fait-là, et donc nous avons commencé à prospecter. C'est-à-dire que nous sommes allés de gauche et de droite, au gré des vents, au gré des bons vents, pas des vents mauvais, pour voir si nous pourrions être accueillis quelque part. Et nous avons été très étonnés. Parce que, vous savez que la Méditerranée s'étend de l'Est à l'Ouest, évidemment, donc de l'Espagne à Israël, de ce côté-là, nous avons des implantations en Espagne et en Israël de notre communauté qui est répartie sur les 5 continents. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les Dardanelles, il y a la mer Noire, des pieds noirs en mer Noire d'ailleurs, ça se comprend. Hein. Bon, très bien. Donc nous avons des propositions qui nous arrivent, et pour ne rien vous cacher, nous sommes sur le point de signer un compromis avec un État qui nous offre le triple de ce que nous signons à l'heure actuelle avec la France, enfin avec la France, avec un vendeur français. Le triple est tout, orchestré, c'est-à-dire qu'il y a 520 villas, il y a un port de plaisance, imaginez un club méditerranéen quelque part, où il fait bon vivre, magnifique, avec des paysages somptueux.
Un Eldorado.
Un Eldorado, ça nous est offert. Donc pour l'instant, étant donné que nous sommes français, que nous aimons la France et que nous souhaitons rester en France, nous souhaitons que la France nous accueille dignement. Nous sommes les fils. Les fils prodigues peut-être, mais les fils. Donc d'abord la France, ensuite les autres. Mais nous n'excluons pas les autres. Et au contraire, nous disons, nous commençons à dire merci, parce que non seulement nous sommes très bien reçus dans les Balkans, mais nous sommes très bien reçus en Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est nous les Africains, mais nous sommes véritablement des Africains et que nous avons la volonté de travailler avec nos frères africains. Et puis, nous avons l'Espagne et nous avons, par exemple, Haïti et la République dominicaine. Nous ne faisons pas de soucis au niveau du territoire. Il n'y a qu'une seule chose. C'est peut-être ma déformation du fait que je sois un ancien fonctionnaire du ministère des Finances et du ministère de la Défense nationale. C'est-à-dire que j'aime bien que les choses soient carrées, qu'elles soient transparentes et claires. Vous me direz que dans ce monde, y compris en France, transparence et clarté, ce n'est pas forcément des valeurs qui ont cours tous les jours. Mais, donc, nous, ce sont les nôtres. Et donc, je me suis dit, c'est très bien, la convention de Montevideo de 1933, et j'insiste, j'enfonce le clou, pour que les gens aillent la lire, avant de prendre des décisions et d'écrire n'importe quoi dans les journaux. Donc il faut commencer par lire. C'est très bien, mais cette convention laisse libre champ. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir ou ne pas avoir de territoire. Un, nous ne voulons pas voler. C'est-à-dire que, comme beaucoup de pays émergents, nous ne tenons pas à voler les propriétés des anciens propriétaires. C'est la première chose. Deux, nous tenons à être chez nous, c'est-à-dire en souveraineté. Trois, nous sommes prêts à payer le prix fort s'il le faut. Tout simplement pourquoi ? C'est que nous sommes en train de créer au Luxembourg un fonds d'investissement international qui va nous permettre de pouvoir répondre aux sollicitations que nous aurons. C'est la première chose. Donc nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec de l'argent, du bon argent, de l'argent transparent, pas de l'argent qui coule je ne sais où, pour dire voilà, nous voulons acheter notre territoire. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Tout simplement pourquoi ? C'est qu'il y a une autre notion, c'est ce que l'on appelle la souveraineté fonctionnelle. Cette souveraineté fonctionnelle, c'est celle, par exemple, de l'État de Malte. L'ordre de Malte est un État, mais ils n'ont pas de territoire, ou tout au moins, ils n'ont pas de territoire principal. Ils ont des territoires occasionnels, subsidiaires, en fonction du temps et des dons. Donc, si vous le voulez, à l'heure actuelle, nous avons la possibilité, sans problème, d'exister en tant que tel. Mais nous avons cette exigence de transparence.
Jacques Villard, je vous propose de faire une pause musicale avec un morceau que vous nous avez proposé pour notre émission sur la création de l'État pied-noir. Cette chanson, cette musique, c'est Nous les Africains. Je vous propose qu'on l'écoute et vous la commenterez après.
Parfait.
Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs. Quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdis foyers et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.
Sur FM Plus 91 FM à Montpellier, avec Jacques Villard, au sujet de la création d'un nouvel État, l'État pied-noir. Et nous avons entendu ce chant, c'est nous les Africains, que j'ai l'impression que vous connaissez par cœur, Jacques Villard.
Presque. Oui, je le connais par cœur et je vais vous dire que c'est quelque chose qui, pour moi, est le véritable hymne de notre peuple. Mais c'est encore beaucoup plus que cela. Imaginez, si vous le voulez, ces colonnes. De frères africains de la France, d'enfants de la France, hein, parce qu'à l'époque c'était des enfants de la France, on l'oublie, qui partaient de leur village et partaient en France qu'ils ne connaissaient pas pour venir délivrer la France, 14-18, 39-45. Ils ont été massacrés dans des conditions impitoyables et ils n'ont jamais rien demandé en retour. Si l'on regarde à l'heure actuelle leurs petits-enfants, qui partent aussi, qui marchent, qui traversent l'Afrique, et qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Des balles. Parce qu'on leur dit, il ne faut pas traverser les frontières. Mais quand il fallait défendre la France et la délivrer, les gens qui sont partis du fin fond de l'Afrique, ils sont venus en chantant. Ça, c'est une marche. C'est une marche comme cette marche que j'évoquais tout à l'heure, celle du Mahatma Gandhi et celle de Martin Luther King, qui marchaient pour leurs pays respectifs. Vous me direz, ça s'est mal terminé pour eux, hein, puisque tous les deux ont été assassinés. J'espère que je ne subirai pas le même sort. Mais toujours est-il que, à ce niveau-là, c'est quand même symptomatique d'un fait, c'est que les gens que l'on massacre à l'heure actuelle en Méditerranée, ce sont des gens qui ont traversé la Méditerranée à deux époques pour venir délivrer le continent européen de la barbarie. Et l'on dit maintenant que ce sont des barbares. Je crois qu'il y a une vision de l'histoire à revoir. Mais bon, lorsque nous serons installés dans nos états, donc dans notre état, nous reviendrons sur l'histoire et la mémoire. Parce qu'il y a des légendes qui se sont créées. Imaginons un seul instant, on parle des pieds noirs. Nous venons d'évoquer les yeux dans les yeux, et c'est très agréable d'ailleurs, à l'instant, l'histoire de ce peuple. Et on nous raconte, c'est un peuple guerrier. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous êtes né de l'expédition de Louis-Victor de Gaines de Bourmont, le maréchal de France, le ministre de la guerre de Charles X, lorsque la France a décidé d'attaquer les Turcs le 5 juillet 1830 et qu'elle a battu donc l'Empire de la Porte. Mais c'est pas du tout ça. Les pieds noirs ne sont pas nés à ce moment-là. Les pieds noirs sont nés au IIe siècle. Au IIe siècle, ils sont arrivés, tout simplement pourquoi ? On nous dit, vous avez parmi vous Roger Hanin, et donc toute la communauté des Juifs séfarades. Mais bien sûr, ce sont nos frères, et dans nos veines coule ce sang aussi. Et on ne peut pas séparer Roger Hanin de son ascendance. Il est l'ascendant en ligne directe de la Kaena, qui fut l'héroïne berbère, la Jeanne d'Arc judéo-berbère, qui s'est opposée aux Romains. Mais c'était une pied noire.
L'histoire fait des raccourcis. L'histoire fait des raccourcis trop rapides. Voilà.
Alors ouais. Après, on nous dit 1830. Mais attendez, il y a quand même les Espagnols et les Italiens qui sont venus au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, qui ont ensemencé toute l'Afrique du Nord et qui ont donné ce lustre que nous voyons maintenant dans les mosquées, etc. Cet art tout à fait particulier qui a été créé justement par ces Italiens, ces Espagnols, qui sont venus amener leur technique particulière, surtout en matière d'émaillage. Donc voilà, à ce niveau-là, où est l'histoire. Qu'on ne nous raconte pas des histoires avec l'histoire. Il faut maintenant, là aussi, faire œuvre de mémoire. Nous allons le faire tranquillement. Nous ne sommes pas des desperados. Nous sommes des gens, vous l'avez vu, des gens calmes, tranquilles. Quand vous entendez ce chant, il parle de quoi ? D'amour. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Mais notre patrie, à l'époque, à toute l'Afrique francophone, c'était la France. Et nous l'avons fait. Nous sommes venus, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents sont venus se battre pour cette France et la délivrer. Nous n'avons aucune raison maintenant de dire que les petits-enfants vont venir saccager la France. Si on sait leur parler. Moi, je donne, si vous voulez, un challenge à nos responsables politiques. Vous reconnaissez notre État. Vous nous donnez un territoire, et sur ce territoire, on accueille des migrants. Et vous allez voir que nous allons faire de bons Français. Et en tous les cas, de bons pieds noirs. Parce qu'ils sont avec nous. Il n'y a aucun problème.
Le rendez-vous du 13 novembre que nous avons signalé au tout début de cette émission, c'est de cet aspect-là dont vous allez parler.
Mais bien sûr, si vous voulez... Quand on se rappelle la campagne présidentielle, tout le monde s'est excité. Les organisations de rapatriés que nous respectons, et je dois vous dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un État étranger par rapport à la France maintenant, et que les activités des grandes associations de rapatriés qui ont œuvré depuis 1962 pour essayer de faire en sorte d'adoucir la condition des rapatriés d'Afrique du Nord, ce sont des organisations françaises. Donc nous respectons les transactions qui ont lieu à l'heure actuelle et qui durent depuis plus d'un demi-siècle entre ces organisations et la France. Ce sont elles qui doivent négocier concernant le passé, concernant l'indemnisation, etc., les cimetières, etc., de négocier également avec l'Algérie concernant ces problèmes particuliers. Nous, nous sommes autre chose. Nous sommes un avenir. Nous sommes un avenir qui, certes, se réfère au passé, mais qui est un avenir, et nous n'avons pas du tout l'intention de rentrer dans ces négociations-là. Si nous rencontrons M. Macron, par exemple, imaginons...
Le 13 novembre.
On peut rêver, hein, c'est un rêve bleu. Bon, eh bien, nous lui dirons « Bonjour, Monsieur le Président, notre chef de l'État saluera son collègue comme il se doit, avec courtoisie et politesse, et nous parlerons de l'avenir, des contrats que nous pouvons faire avec la France sur telle ou telle prospective d'avenir. » Nous écrivons de la même façon en Algérie, en Tunisie, au Maroc, aux différents présidents. Nous partons avec un esprit d'avenir, débarrassé des séismes du passé, les miasmes du passé. Nous ne sommes pas des gens du passé, et encore moins des gens qui veulent la guerre. Donc, c'est le 13 novembre, c'est très important. Quand nous allons partir pour aller à l'Élysée, puisque nous commencerons par l'Élysée, à tout seigneur, tout honneur. Donc nous partirons donc d'en bas des Champs-Élysées. Il y aura peut-être un ou deux drapeaux, mais les drapeaux, ça ne fait pas de mal. On l'a entendu dans la chanson. Hein.
Donc, va défiler derrière vous, Jacques Huillard, votre ministère, votre gouvernement, votre Assemblée nationale, et tous ceux qui voudraient bien vous rejoindre.
On nous dit, mais vous comprenez, il n'y a que les pieds noirs. Lorsque vous arrivez en France, et que vous venez d'un pays différent, et que vous présentez un dossier de naturalisation, une fois que ce dossier est adopté, vous êtes français. Mais là, vous serez dans un état pied noir. Vous faites une demande de naturalisation, vous serez pied noir. Donc, si vous voulez, les gens qui veulent bien nous rejoindre, ils vont avoir, à partir du 1er janvier 2018, un certificat d'intégration pied noir dans cet état. Mais nous avons d'ores et déjà 50% des nôtres qui sont pieds noirs, 50% qui ne le sont pas, mais qui le sont devenus, puisqu'ils travaillent maintenant au titre de l'état pied noir. Nous avons des Allemands. Nous avons évidemment des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Nous avons des gens qui sont d'origine arabe ou berbère. Et nous avons ce sang-là aussi qui coule dans nos veines. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Nous sommes un État qui est d'origine pluridisciplinaire, je dirais, pour essayer de faire dans la pédagogie. Mais nous ne rejetons personne. Nous acceptons tout le monde. Et si, lorsque nous serons donc en bas des Champs-Élysées, à quelques-uns viennent nous rejoindre la multitude, eh bien la multitude est bien accueillie.
Merci Jacques Huillard. Et bon courage pour le 13 novembre. À bientôt, j'espère, ici.
Ah, c'est nous qui vous remercions, et vous savez non seulement que c'est toujours un excellent plaisir que de venir chez vous, que nous souhaitons à chaque fois vous réserver nos priorités, et en tous les cas que nous passons un moment délicieux encore une fois. Merci.
Au revoir.
Au revoir.